Bienvenue à tous dans le MAG de l'été.
L'objet de la recherche ne doit pas être le surnaturel, mais le monde. Le surnaturel est la lumière. Si on en fait un objet, on l'abaisse.
Quel est le texte que vous venez de nous lire, Kaya Sahariao?
C'est une phrase de la philosophe Simone Weil, française, qui a décédé en 1943. Ça vient de la pesanteur et la grâce.
Un recueil de textes.
Voilà, un chapitre qui s'appelle Intelligence et la grâce.
Un recueil dont vous avez d'ailleurs tiré un opéra. Vous avez créé une œuvre inspirée par ces textes, Kaya Sahariao.
Par ces textes, mais plus généralement par la philosophie de Simone Weil, qui m'a en fait suivi toute ma vie, depuis que je suis un teenager, et qui était une personnage très, très spéciale, mystérieuse, très exemplaire et très problématique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG de l'été, le magazine culturel estival de vos débuts de soirée sur France Inter, un magazine cette année en itinérance sur les routes de France. Nous sommes toujours en terre provençale, mais nous avons aujourd'hui quitté Marseille pour Aix-en-Provence et son festival international d'art lyrique. Alors le festival d'Aix, c'est le grand rendez-vous en France chaque été des amateurs d'opéra depuis plus de 70 ans. L'édition de cette année a bien sûr été très menacée, Covid oblige, mais plutôt que de l'annuler, son directeur, Pierre Audi, en plateau avec nous, a choisi de la maintenir du 6 au 15 juillet sous une forme adaptée aux contraintes que tout le monde de la culture subit. En effet, les créations plus qu'alléchantes prévues ne verront pas le jour dans les semaines à venir face à un public. Néanmoins, nombre d'artistes sont ici au travail, des décors se construisent, des concerts captés à huis clos seront retransmis tous les soirs et Innocence, la création très attendue de la compositrice Kaya Sahariao, dirigée par Susanna Malki, est en pleine répétition. Plongée dans les coulisses de la création avec deux musiciennes exceptionnelles, c'est notre proposition d'aujourd'hui dans le MAG de l'été.
France Inter, le MAG de l'été, Anna Sigalevitch.
Bonjour Susanna Malki, Kaya Sahariao et Pierre Audi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur France Inter dans le MAG de l'été. Alors, on va commencer un petit peu avec vous, Pierre Audi, et ce festival que vous avez dû donc totalement repenser. Vous avez tenu bon pour ne pas l'annuler. Pourquoi est-ce que c'était pour vous essentiel de maintenir cette édition, Pierre Audi ?
D'abord parce que nous avons été pris de court par cette crise planétaire et que notre cœur a un réflexe de protecteur envers la culture et a de façon instinctive essayé de que tout ce travail ne s'écroule pas
et que
justement la culture pourrait nous aider dans cette période. Donc bien sûr nous avons reçu l'ordre, en fait, finalement, de ne pas programmer le festival. Mais après ça, parce que nous avions visé très haut, nous avons essayé quand même de sauver quelques productions et de les filmer. Nous nous sommes retrouvés dans une situation très positive de pouvoir, en fait, finalement, inviter beaucoup d'artistes à venir à Aix, à chanter, à jouer, à répéter. Nous avons maintenu tout le travail de l'Académie et plein d'autres
aspects. Parce
que
l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, c'est très important.
C'est une opération très importante.
De jeunes chanteurs, de jeunes musiciens, de jeunes metteurs en scène.
Donc tout ça se fait online. Mais aussi, nous avons quand même persuadé tous les artistes de venir à Aix, de chanter dans les différents sites. Tout ça a été superbement filmé et sera donc intégré dans la scène numérique qui commence le 6 juillet.
Le 6 juillet, donc pendant 10 jours, et vous proposez tout de même 4 rendez-vous par jour, c'est pas rien. Et il y a aussi une chose, vous proposez aussi de transmettre les grands rendez-vous, les grandes productions qui ont marqué le Festival d'Aix ces dernières années. On peut parler d'Electra, mis en scène par Chéreau, dirigé par Esa-Pekka Salonen, ça c'était absolument extraordinaire, en 2013. Et parlons surtout de vous, Pierre-Audi, vous avez commencé en fait à diriger le Festival d'Aix-en-Provence l'année dernière, et pour votre première édition a été inaugurée par un spectacle incroyable, mis en scène par Romeo Castellucci et dirigé par Raphaël Pichon. Oui. C'était le Requiem de Mozart. Oui. Ça, on pourra le revoir.
C'était surtout un spectacle prophétique. On ne savait pas qu'il annonçait déjà ce que nous vivons maintenant.
Parce qu'il faut dire que ce spectacle annonce la fin de l'espèce et la disparition. C'est ça qu'on voit tout au fil de l'heure et demie.
Absolument, oui.
Alors, le streaming, est-ce que c'est pour vous, Pierre-Audi, un moyen de transmission, de diffusion, de captation? Ou est-ce que vous pensez que, voilà, vu ce qu'on vit en ce moment, peut-être que ça recommencera, peut-être que ça durera, on espère que non, mais en tout cas, est-ce que pour vous, c'est l'occasion de repenser vraiment la captation comme presque comme un outil de création aujourd'hui, Pierre-Audi?
Pas vraiment. Je pense que l'opéra vivant est irremplaçable. Mais le streaming aide en ce moment, par exemple, à faire vivre la mémoire des gens. Mmh. Certaines personnes qui ont vu les spectacles peuvent les revoir et les repenser par rapport à une période plus tardive, même des spectacles historiques, mais aussi un jeune public, un public plus jeune qui peut-être ne pouvait pas se permettre de payer les places.
Oui, c'est aussi la conquête d'un nouveau public,
voilà,
vous pensez,
absolument,
le streaming.
A pu peut-être découvrir ces spectacles dont on a beaucoup parlé, et je pense que c'est aussi important de rappeler qu'un festival, ce sont des briques qui sont posées les unes sur les autres, et qu'il y a une continuité, une histoire qui se raconte sur une période très longue.
Mmh. Et 70 ans, hein, tout de même, le festival.
Absolument, c'est un festival aussi de recherche, de risque, de prise de risque, et c'est là aussi où on peut aussi justement inviter le public à découvrir quelque chose de nouveau, de différent.
Parce que pour vous, une maison d'opéra et un festival n'a pas la même vocation de programmation. Le festival peut prendre des risques.
Absolument, il doit prendre des risques. Et justement, les artistes de premier plan sont aussi ceux qui sont prêts à justement se renouveler, à participer à cette aventure. Je crois que mes prédécesseurs l'ont prouvé.
Foucroul était juste avant
ça,
vous.
Et je pense qu'on continue cette histoire qui est très belle. Et puis pour moi, la création de nouveaux opéras est très importante. Je pense que j'ai institué que chaque année, on créerait une œuvre.
Une nouvelle œuvre.
Et cette année, ça devait être justement l'opéra de Caïa.
Et donc, vous n'avez pas renoncé, vous répétez tout de même.
Voilà, parce que c'est très fragile, la création d'une nouvelle œuvre, c'est quelque chose de très très fragile, donc il faut s'en occuper, on peut pas simplement se dire, bon, on peut pas le jouer, et puis on ne pense pas exactement comment on va reprendre en main ce bébé. Donc je pense que c'était important aussi d'explorer avec les artistes la possibilité de commencer à travailler dessus. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Je pense que c'est une chose très bénéfique et très touchante.
Alors, parmi les concerts qu'on pourra entendre sur France Musique et Arte Concert à partir du 6 juillet, on peut citer Sabine Devielle qui chantera du Strauss et du Mozart, ce sera le 14, Simon Rattle et Magdalena Kojena, le 6, hein, Magdalena Kojena qui chante dans Innocence. Il y aura Marie-Laure Garnier et Célia Onetto Ben Saïd, un jeune duo pianiste-chanteuse qui jouera donc du Sibelius et une œuvre de vous, Kaya Sarriao. Et puis, il y aura aussi le jeune contre-ténor Jakub Józef Orlin dans des pièces d'Endel et de Purcell. Merci beaucoup Pierre-Audi d'être venu nous rendre visite. Alors avant d'évoquer avec la compositrice Kaya Sarriao et la chef d'orchestre Susanna Melki, donc Innocence, la création qu'elle répète ici à Aix en ce moment, on écoute un extrait de Cold Song, l'air du froid de Purcell par Jakub Józef Orlinski, qui sera retransmis mercredi prochain le 8 sur Arte Concert et France Musique. France Musique qui nous offre la possibilité de vous en diffuser un passage. Oh, hast du Cold Song, extrait de l'opéra Le Roi Arthur de Purcell par Jakub Józef Orliński, qu'on pourra entendre donc lors du récital capté et retransmis par France Musique et Arte Concert le 8 juillet. Vous êtes sur France Inter, dans le mag de l'été, en direct depuis le cloître du Collège Sainte-Catherine à Aix-en-Provence. Nous sommes ici car le Festival d'Art Lyrique, dans une forme certes un peu particulière, mais tout de même une forme, est maintenue. Nous sommes en compagnie de la compositrice Kaya Sahariao et de la chef d'orchestre Susanna Melki. Avant de nous pencher sur votre création, Kaya Sahariao, ces voix de contre-ténor, comme celle d'Orlinski qu'on vient d'entendre, elles ont beaucoup inspiré les compositeurs du temps des castrats, bien sûr, puis elles ont disparu avec la disparition, c'est plutôt heureux, des castrats au 19e siècle. Et là, la création contemporaine s'intéresse beaucoup à ces voix de castrats. Je pense à des compositeurs comme Philippe Dehi cette année avec Inondation, à Thierry Esquèche avec Claude, avec vous aussi avec Only the Sound Remains, où c'était Philippe Jaroussky qui chantait le personnage de l'esprit, de l'ange. C'est une voix que vous trouvez particulièrement inspirante, Kaya Sahariao, celle de contre-ténor, comme ça, très aiguë, un peu miraculeuse.
Oui, c'est intéressant, c'est pas... Ça dépend de contexte. Moi, j'étais intéressée d'utiliser la voix d'un contre-ténor pour justement pour le rôle surnaturel. Quand on parle de la voix de contre-ténor, il faut parler des voix de contre-ténor, oui. Parce que ils sont tellement multiples et différents, n'est-ce pas?
Oui, il y a des contre-ténors qui sont dans la virtuosité, beaucoup, d'autres qui ont des voix beaucoup plus pures. En effet, ce n'est pas une voix contre-ténor.
Oui, par exemple, quand on, si on, c'est qu'on vient d'entendre, oui. On compare avec Philippe Jaroussky, qui est beaucoup plus aigu et qui a une couleur quand même très différente, n'est-ce pas?
Absolument. Alors, vous êtes en pleine répétition de la création de votre opéra, Innocence. Donc, la création est reportée publiquement, mais vous allez, je crois, tout de même assez loin dans la répétition, jusqu'à ce qu'on appelle la générale piano, c'est ça?
Oui, voilà. On a 13 soloistes, on a 2 pianistes. Mm-hmm. On ne peut pas avoir l'orchestre à cause de Covid. On ne peut pas avoir le chœur. Mais sinon...
On essaye de faire quand même avancer l'œuvre.
On avance énormément. Ça va être pratiquement prêt quand on va finir.
Quand vous aurez terminé la répétition. Oui, Susanna Melki, pour vous, ces répétitions, donc vous êtes chef d'orchestre, vous êtes donc chef d'orchestre sans orchestre. Enfin, c'est une configuration quand même un petit peu particulière. Est-ce que ces contraintes, malgré tout, vous appréhendez, c'est essentiel pour vous dans l'appréhension de la partition de cette création de Kaya Sahariao?
Certes, la présence de l'orchestre à chœur va apporter encore une dimension très importante, mais toujours dans les processus ou dans les préparations d'une production d'opéra, il y a ce travail scénique, déjà le travail musical avec les solistes et puis le travail scénique avec le metteur en scène, et les deux se mêlent en fait beaucoup. Donc il y a c'est un très bel échange qui a lieu dans ces répétitions là et ce serait tellement un grand luxe de pouvoir faire ça sans...
Oui, finalement c'est assez précieux ce qui se passe. Vous faites de cette terrible chose qu'est le Covid, finalement un moment précieux de répétition où vous pouvez peut-être explorer des choses que vous n'avez habituellement pas le temps de faire, parce qu'il faut quand même rappeler que à l'opéra, c'est très très compliqué, c'est très très lourd. Ça met, voilà, on met des années à préparer les choses. Et puis finalement, une fois qu'on arrive en répétition, on n'a plus le temps de rien, on n'a plus le temps d'essayer. Là, finalement, vous avez un petit peu, en tout cas, le temps d'essayer. C'est le sentiment que vous avez, Susanna Melki?
Oui, exactement, c'est ça. Et en fait, aussi, comme c'est un, malgré cette énorme machine qui est l'opéra, il s'agit de quelque chose de très intime. C'est vraiment magnifique de pouvoir s'approfondir pour tous les détails et aussi se connaître, parce qu'en fait il s'agit d'une famille, donc on devient une petite famille déjà pendant les répétitions. Et en plus, comme le sujet de l'opéra est quand même assez tragique et émouvant, ça nous permet aussi de faire oui. mûrir
alors,
tout ça.
Parlons un petit peu justement de quoi parle cet opéra qui est... Alors, il faut que je rappelle que, parce qu'on entend donc vos accents respectifs, vous êtes toutes les deux finlandaises, vous parlez très très bien français, enfin, vous travaillez beaucoup en France, Kaija Saario, vous vivez en France depuis très longtemps, puis vous, Susanna Melki, je rappelle que vous avez aussi dirigé pendant des années le UIC, l'Ensemble International Contemporain, donc voilà, vous avez des attaches plus que solide en France, mais vous êtes toutes les deux finlandaises, et l'opéra que vous créez en ce moment vient, et y a le livret original est aussi écrit par une écrivain finlandaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu l'une ou l'autre,
Kaija Saario? Oui, donc le librettiste s'appelle Sophie Oksanen.
Mm-hmm.
En fait, c'est une romancière, c'est son premier livret.
On peut dire qu'en France, on la connaît notamment pour son troisième roman qui s'appelle Purge, oui. qui a été très très vendu en France.
Oui, oui. Et c'est un sujet autour d'idées que j'avais, comment les personnages différents venant des cultures différentes, des âges différents, mm-hmm. comment ils vivent un événement très important qui va changer leur vie, comment ils vont gérer chacun le traumatisme.
Le traumatisme, c'est ça, c'est sur le traumatisme. Oui. Alors il faut expliquer qu'il y a deux temporalités dans l'opéra. L'opéra commence aujourd'hui, on est à un mariage en Finlande, et puis on comprend qu'il y a un événement traumatique qui s'est passé il y a une dizaine d'années, et donc on est en permanence aujourd'hui, et il y a 10 ans, et vous dites, Kaija Saario, que c'est un petit peu comme un thriller.
Oui, en fait, c'est comme un thriller ou comme un puzzle, une manière que chaque fois le livret nous rapporte peu à peu des informations que on peut comprendre dans notre esprit, on peut le comparer dans notre esprit avec ce qu'on sait déjà. Donc, ça avance d'une manière que seulement vraiment à la fin
le puzzle se recompose.
Oui.
Susanna Melki, est-ce que dans la partition il y a aussi du suspense?
Ah, absolument. C'est une musique extraordinaire. Et moi, je connais la musique de Kaija depuis très longtemps.
Alors, je vais rappeler quand même que vous avez en effet beaucoup travaillé ensemble. Vous avez dirigé nombre de ses œuvres symphoniques. Vous en êtes quand même à votre troisième opéra ensemble. Il y a eu L'amour de loin, il y a eu La passion donc de Simone, et là aujourd'hui donc Innocence. Donc vous connaissez très 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 bien.
Oui. C'est un grand plaisir, bien sûr aussi. Hein. Honneur et grande responsabilité de faire une création. Ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la musique, même en connaissant tout le répertoire existant précédent, là, cette musique est vraiment quelque chose de... Comment dire ? Moi, je suis profondément impressionnée par
la nouveauté de l'écriture.
La nouveauté de l'écriture, par l'expression et aussi stylistiquement, comme justement, peut-être c'est cet aspect de thriller qui décrit les situations différentes, en fait, les générations.
Oui.
Donc
il y a plusieurs plans aussi sonores.
Il n'y a que beaucoup de plans, en fait, qui vraiment devient une sorte de web. Et aussi les manières à chanter différentes qui reflètent...
Qui viennent des différentes nationalités des interprètes et de la différente psychologie de tous les personnages.
Exactement, tout ça. Et comme le livre est déjà construit comme un thriller où les temporalités changent, la musique le fait aussi. Et vraiment, il y a un suspense et aussi la maîtrise, en fait, bien sûr, la partie du compositeur ou compositrice dans cette situation, en fait, c'est être l'architecte de la temporalité. Et moi, Kaija m'a envoyé le livret quand il était prêt, mais c'est vraiment l'imagination qu'elle a apportée à ce texte, et ça me fait des frissons quand j'en parle, franchement, parce que comme elle a soufflé la vie dans chacun des personnages. Et en plus, ce que je trouve remarquable avec cette œuvre, c'est que, en fait, chaque personnage de cet opéra pourrait être la personne principale.
Principale, c'est ça. C'est conçu comme, parce que c'est comme vraiment... 13 personnages principaux.
Oui, parce que c'est vraiment un événement qui a marqué chacun entre eux. Et on comprend peu à peu. Et il y a encore une surprise à la fin de quelqu'un qu'on croyait que c'en est plutôt alors, bien sorti.
Ne dévoilons pas.
Non,
gardons
non bien sûr. Ben non, mais c'est que jusqu'à la fin, en fait, il y a encore des choses qui...
qui se réinventent et qui surprennent l'auditeur, ouais. Et dans le livret et dans la musique. On va écouter votre musique, Kaya Sarriao, dirigée par vous, Susanna Melki. On écoute un extrait de Circle Map, c'est une pièce qui date de 2012. On écoute un extrait du premier morceau, Morning Wind. Vous êtes sur France Inter dans le MAG de l'été en direct d'Aix-en-Provence. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux grandes musiciennes, la compositrice Kaya Sarriao et la chef d'orchestre Susanna Melki. Donc on vient d'entendre un extrait de Circle Map, qui est une pièce pour grand orchestre et électronique live que vous dirigez. Donc Susanna Melki, bon, c'est, on entend hein, toute la richesse de la matière sonore, toutes ces textures, ce travail à la fois extrêmement puissant, complexe et d'une infinie délicatesse. À diriger, j'imagine que c'est extrêmement complexe et passionnant, Susanna Melki.
C'est surtout passionnant et c'est vraiment avec la musique de Kaya, je pense qu'il y a une spécialité ou spécificité particulière, c'est le côté mystère qu'elle sait créer dans la sonorité. Et c'est vraiment une originalité absolue, en fait. Il y a aucun autre compositeur, compositrice qui
écrit comme
cette
ça.
Plume de magie. Parce que les sonorités orchestrales sont tellement riches et lumineuses.
D'ailleurs, je conseille vraiment aux auditeurs, parce qu'il y a encore des gens qui craignent un petit peu la musique contemporaine, d'entendre la musique contemporaine. Et je dois dire que moi, j'ai souvent écouté vos œuvres en concert, et c'est très très important d'aller voir, parce que on ressent les choses profondément différemment. La musique contemporaine n'est pas forcément évidente à appréhender comme ça quand on l'écoute au disque. Or, je pense que la dimension visuelle et de voir un orchestre en mouvement pour votre musique, je vous vois opiner du chef, Kaya Sarriao, vous êtes d'accord avec ça, c'est très important.
Oui, bien sûr, je pense que vraiment les concerts vivants, on peut pas les remplacer.
On peut pas les remplacer, non. C'est sûr. Alors, c'est assez rare, j'imagine, enfin, tout de même, de diriger une œuvre avec une compositrice vivante. Hein, c'est quand même une chose assez particulière. J'aimerais savoir comment vous fonctionnez ensemble. Est-ce que l'œuvre Kaya Sarriao est totalement gravée dans le marbre une fois qu'elle est composée, ou est-ce qu'elle bouge un petit peu en répétition? Est-ce que, Susanna Melki, vous posez des questions à Kaya Sarriao?
Mais quelque part, pour moi, l'œuvre n'existe pas avant que j'étais créée. Et c'est pour ça que justement cette annulation de Innocence était tellement frustrante pour moi,
douloureuse.
Parce que j'avais travaillé pendant en total 5-7, je me rappelle même pas quand est-ce qu'on a commencé à travailler pour le livre. Donc bien sûr la partition, c'est juste une partition. Et après, il faut quand même quelqu'un de très spécial pour le souffler la vie dedans. Et c'est une collaboration, mais on n'a pas besoin tellement parler. On peut discuter, Susanna peut demander des détails, mais maintenant, Susanna...
Vous connaissez très bien, donc vous parlez relativement peu. Mais par exemple, moi, le chef d'orchestre Daniel Barret-Beaune m'avait raconté une chose que j'avais trouvée incroyable. Il crée une œuvre de Pierre Boulez qui était écrite à un tempo, j'invente, hein, mais voilà, disons 60 à la croche, donc un tempo très lent. Et puis, en répétition, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, donc il demande à Pierre Boulez, etc. Et en fait, ils ont quasiment doublé le tempo parce que Boulez disait, bah oui, effectivement, je l'ai pensé comme ça dans ma tête, mais finalement, en prenant vie, c'est très différent. Est-ce que vous, Kaya Sahariao, les choses bougent au fil des répétitions?
Les tempis, justement, peuvent bouger parce que c'est vraiment différent qu'on est seul sur la table, on a une idée musicale. Et quand on entend dans l'espace, déjà ça dépend dans quel espace, donc on peut pas fixer des tempi sans l'espace. Et les tempi et les dynamiques, c'est ça qui peut bouger,
qui peuvent absolument bouger, mais pas l'écriture. Et donc pour vous, Susanna Melki, c'est extrêmement précieux d'avoir une compositrice.
C'est certain.
Est-ce que ça intimide en même temps? Quel rapport à l'œuvre? Il est très différent, j'imagine.
Ça pourrait le faire, mais je pense que c'est en fait un privilège de pouvoir justement poser les questions directement aux créateurs, créatrices. L'information vient de la source. Et aussi quand on... Je trouve aussi que quand il s'agit d'un artiste comme Kaya, en fait, cette musique est écrite pour les êtres vivants. Oui. Donc, comme tu aimes beaucoup les chanteurs, chanteuses, en fait, l'art vocal, c'est très humain. Et il y a les voix, et chaque voix se comporte différemment, comme vous venez de dire. Oui. Et tout ça, donc, on s'adapte, en fait, dans les conditions. Chaque orchestre est différent. Il y a l'acoustique, il y a aussi de la dramaturgie qui change. Et quelquefois, les proportions, en fait, aussi, qu'il y a un moment de clé, par exemple, où on sent vraiment que maintenant, on a besoin de... vraiment donner le poids à un certain mot. Ça se fait tout le temps à l'opéra. Et la musique contemporaine n'est aucune exception. Et je pense que c'est formidable, justement, que cette musique est écrite en pensant que ça va être interprété. Donc ça devient aussi plus humain et plus... Comment dire... Moi, comme interprète, je me suis jamais senti que ce serait une interdiction de la part de Kaya.
Oui,
au contraire.
Aucune censure.
C'est plutôt un encouragement. Si j'apporte une idée, on a toujours pu discuter.
Communiquer ensemble. Oui. Vous êtes d'ailleurs interprète, vous aussi, vous êtes violoncelliste.
En plus,
au départ, oui. Tout à fait. Donc ça change aussi, je pense, la façon d'appréhender.
Ça change d'un... Oui et non, je pense que, bien sûr, il faut savoir lire la musique. Ça, c'est une nécessité de la base. Mais après, chacun a son style à interpréter et ses préférences. Je pense qu'il y a tellement d'éléments dans la musique qu'on peut accentuer. Il y a l'articulation, la respiration. Mais comme elle vient de dire, en fait, c'est l'intention musicale qui est la clé. Après, on trouve les outils ou les solutions. C'est passionnant. Je trouve ce travail est vraiment peut-être la meilleure.
Le plus intéressant.
Ouais.
Kaya Sahariao, nous avons pour habitude dans le mag de l'été de brosser une sorte de petit portrait chinois de nos invités. Je ne vous le demande pas à tous les deux, je sais que vous êtes timide, Susanna Melki. Enfin, je sais que vous êtes timide aussi, Kaya Sahariao, mais je suis désolée, quelqu'un doit le faire, donc ça tombe sur vous. Est-ce que vous acceptez de vous prêter au jeu?
Essayons.
Essayons. Kaya Sahariao, si vous étiez un instrument...
Flûte.
Si vous étiez une héroïne de littérature. Oh. On passe ?
Oui.
On passe.
Oui.
En quoi aimeriez-vous être réincarnée, Kaya Sahariao ?
Un oiseau.
Craignez-vous l'esprit de sérieux?
Pouf.
Sans quel compositeur ne pourriez-vous pas vivre?
Bach.
Quel morceau auriez-vous aimé avoir composé, Kaya Sarayao?
Je pense pas comme ça.
Non.
Non.
Il n'y a pas un morceau?
Non.
De quoi êtes-vous reconnaissante, Kaya Sarayao?
Je suis reconnaissante pour pouvoir écrire ma musique.
C'est le moment d'écouter un autre genre de musique dans le Mac de l'été. On file tout de suite en Afrique du Sud avec Bambelela Koum de Bongeziwe Mabandla.
Otene sepatana kanjena kunzima ungokwalelana kumane kumnyasena ya selatlega sesobamene. Mama, lala ngome. Ndongo, mama lala ngome. Mama, lala ngome. Ndongo, mama lala. Sanga kasenanga sanga kasenanga sanga kasenanga sanga kasenanga.
Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Bambelela Koum de Bongeziwe Mabandla, playlist France Inter dans le Mac de l'été. Alors c'est le moment de nous pencher sur l'actualité culturelle des jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été. L'exposition Soleil Noir au Louvre-Lens aurait dû être inaugurée le 25 mars. Elle a finalement ouvert ses portes aux visiteurs le 10 juin dernier. Le noir est à l'honneur dans toutes ses nuances et ses contradictions. Couleur de la nuit et de l'infini, mais aussi symbole du deuil et du péché. Noir infernal ou noir sacré, chasse aux sorcières ou symbole de vie dans l'Égypte des pharaons. Le noir est la couleur de l'élégance pour les grands couturiers, mais c'est aussi le charbon qui noircit le visage des mineurs. Parmi les 180 chefs-d'œuvre exposés au Louvre-Lens, la croix de Malevitch ouvre la voie aux outres noires légendaires de Pierre Soulages. Les gravures de Gustave Doré se succèdent aux dessins d'Odilon Redon. La sublime Dame aux gants de Carolus Duran ou l'énigmatique Berthe Morisot peinte par Manet dialogue avec des robes de Jeanne Lanvin et de Yoji Yamamoto. L'exposition est prolongée jusqu'au mois de janvier.
Un après-midi à Paris.
Tous au musée, à Paris aussi. avec la réouverture aujourd'hui du Grand Palais et du Centre Pompidou. Alors côté Grand Palais, au programme, une promenade numérique à la découverte des trésors archéologiques de Pompéi, balade immersive dans les rues de la cité disparue, reconstituée en 3D et expérience bouleversante au cœur de la catastrophe. Côté Beaubourg, l'exposition Christo et Jeanne-Claude Paris s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 19 octobre. Événement en forme d'hommage à Christo, disparu en mai dernier, l'exposition retrace notamment la période parisienne du duo d'artistes entre 1958 et 1964. Cette année, pendant lesquelles Christo s'affranchit de la surface du tableau, s'approprie et empaquette des objets du quotidien, réalise des actions en public, et c'est aujourd'hui Paris qui lui rend hommage. Le CIAM, le Centre International des Arts en Mouvement, est un lieu de découverte, de transmission et de diffusion des arts du cirque, basé ici, à Aix-en-Provence. Et il a transformé son festival annuel en une version perlée, avec des événements chaque week-end de l'été jusqu'au 27 septembre. Carte blanche à une compagnie, petit cabaret sous les étoiles ou réinterprétation de spectacles en plein air, chaque week-end arrive avec son lot de surprises. Ce week-end, la carte blanche à El Nucleo, une compagnie de cirque acrobatique originaire de Colombie, pour un spectacle poétique de haute voltige. C'est vendredi et samedi au Centre International des Arts en Mouvement à Aix.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Nous sommes donc en direct sur France Inter dans le Mac de l'été. Il est 18h54 avec Kaya Sahariaou et Susanna Malki. Est-ce qu'il y a des événements qui vous tentent parmi ces propositions, Susanna Malki et Kaya Sahariaou, ou est-ce que lorsque vous êtes en création, vous êtes totalement dans une bulle de concentration, déconnectée de ce qui vous entoure?
Kaya Sahariaou. Oui, j'étais contente d'apprendre que l'exposition sur le noir...
Sur le noir, oui, ça vous intéresse?
Oui.
Susanna Malki?
J'avoue que je suis un peu dans une bulle, mais j'ai hâte de découvrir tout dans le monde après.
Dans le monde, vous voulez dire le monde d'après la création ou le monde d'après le Covid?
Ah oui, les deux. Non, mais je suis dans un grand optimisme. Je pense que c'est formidable de voir que la culture, déjà d'être ici, en fait, à Aix, en faisant ce travail, c'est fabuleux. Et il y a tellement d'autres événements, la radio, toutes ces émissions en ligne. Etc.
Qui vous intéresse beaucoup. Susanna Malki, j'ai une question à vous poser. Il va y avoir en septembre à la Philharmonie de Paris un concours de chef d'orchestre, une femme, qui s'appelle la Maestra. Ça devait avoir lieu en mars et ça va avoir lieu en septembre. Est-ce que pour vous, c'est des initiatives qui sont aujourd'hui encore nécessaires, qui ont un sens? Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative?
Je pense que l'intention est certainement bonne. Mm-hmm. Après, ce serait magnifique si c'était pas nécessaire.
Oui.
Je pense que c'est plus important d'engager les femmes que leur organiser des événements.
Un concours réservé.
Séparés. Moi, je crois à l'inclusion.
Kaya Sahariaou, pour les compositrices, voilà, l'histoire a été très compliquée. Hein. L'historiographie a beaucoup négligé les compositrices qui ont malgré tout créé depuis des siècles, hein, depuis le baroque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore difficile pour une femme compositrice, Kaya Sahariaou?
C'est encore difficile pour les jeunes et jeunes femmes. Mais ok, c'est difficile pour les jeunes hommes aussi. Mais
c'est difficile.
Mais, mais je pense vraiment que, comme Susanna, je voudrais pas créer de nouveaux ghettos.
Oui.
Je voudrais vraiment qu'on trouve un équilibre.
Un équilibre qui vient aussi beaucoup de la formation et de l'accès aux écoles. Je crois que ça, c'est très important. Non?
Oh, c'est plutôt les organisateurs.
Ah, vous pensez
moi,
qu'il y a encore une,
oui.
Il y a encore une forme d'exclusion?
Oui, mm-hmm. Et c'est l'éducation. C'est l'éducation en ce sens que les femmes et on propose toujours être interprète à cause de cette empathie qu'on a censé toujours avoir et quand on encourage les jeunes hommes de,
d'y aller et de foncer.
Oui, voilà.
Mais ça change tout de même un petit peu aujourd'hui, non, Susanna Malki?
Oui. Le monde évolue et la jeune génération, aussi bien les garçons que les filles, en fait, voient les choses différemment.
Et c'est vrai aussi, autant les jeunes garçons que les jeunes filles.
Oui. Exactement. Mmh. Il faut voir les deux.
Merci beaucoup, Kaya Sahariaou et Suzanna Malki, d'avoir été nos invités dans le Mag de l'été sur France Inter. On a hâte de découvrir votre création Innocence, j'espère, dans quelques mois, dans les mois à venir. Alors, merci au Festival d'Aix-en-Provence, aux équipes techniques, à Pierre Audi pour son accueil et à Valérie Veil. Cette émission a été préparée par Élodie Royer, Camille Poux-Sojalaguier et Maud Ventura. Elle a été réalisée par Clément Baudet, à la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son et à la technique Fabien Gosset, Christophe Michou et David Abécassis. Un grand merci à notre chargée de production Sandrine Bréchaud qui rend notre périple possible et ça n'est vraiment pas si simple. On vous donne rendez-vous demain avec Julien Gosselin à Marseille au Centre d'art Montevideo. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Pierre Veil pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.